Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les beaux soleils intérieurs de la critique. J'ai nommé Sophie Avon, même sans voix, de Sud-Ouest, Xavier Le Herpeur, de 7e Obsession, Nicolas Chalère. De l'Obs, c'est Pierrot, Pierre Murat, de Télérama, on parle ce soir, vous l'avez compris, d'un beau soleil intérieur, mais également de Blade Runner, de Demain et tous les autres jours, de Confident Royal, de Happy End et du sens de la fête dans le courrier de la semaine. Au contraire de vous, Monsieur Chevalier a beaucoup aimé Le Redoutable. Et pourtant, j'adore Godard. Azanavicius montre un type perdu. C'est déstabilisant pour les apôtres godardiens, mais à mon avis, plus juste, même plaisir pour Chris Bonnet. J'ai aimé Le Redoutable parce que c'est un film qui fait confiance au spectateur et que sa forme est un formidable hommage à l'œuvre de Godard, parce que c'est un film intelligent qui donne furieusement envie de s'intéresser au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot ? Idem pour Jean-Luc Clairet, Le Redoutable est un vrai plaisir de cinéma et même un vrai film de cinéma, au contraire du dernier Téchinet. À propos de Mother, des auditeurs, évidemment, s'énerve Pierre Négelen, que de sévérité pour le dernier opus de Darren Aronofsky, une des plus grosses merdes de l'année, selon Xavier Le Herpeur.
C'est sûr, oui.
Un film épouvantable, selon Sophie Avon, qui ajoute dans un aveu de lucidité qu'il honore, on n'y comprend rien. Et pourtant, le film est bien loin d'être inintelligible, dit cet auditeur. Mother, un chef-d'œuvre, je ne sais pas, mais assurément une belle mise en abîme de notre modernité. Clément est aussi tombé de sa chaise en écoutant ce déferlement de haine face à ce bon vieux Aronofsky. Oui, moi je l'aime, nous dit Clément, c'est un cinéaste un peu fou, oui ça oui, qui s'aime beaucoup, ça oui. Moi j'adore Mother, c'est une expérience hallucinante et hallucinée, un moment de cinéma totalement déglingué. Tiens, à propos de ça, d'Andy Muschietti, dont on parlait il y a 15 jours, Séverine Bavic est déçue, et je la comprends, cher masque, cher plume, comme Jérôme, je suis allé voir ça parce qu'on me promettait des frissons au bout d'une heure. Je n'ai pas eu peur une seule fois et j'ai fait ce qui me semblait le plus raisonnable. Je suis sorti. Bref, tout ça pour ça. Pour Abigail, ça est un film plat. Aucun des effets d'horreur ne font peur. Et la scène de fin fait penser à du Walt Disney. Tiens, ça c'est pour Pierrot. C'est Bruno Dustin qui n'a pas goûté le nouveau film de Zvaginsev.
Ah.
J'en étais sûr.
Personne n'est parfait.
Nous dit Bruno Dustin, j'en étais sûr. Lorsque je suis sorti de Faute d'amour de Zvaginsev, je me suis dit, c'est russe. Il y a un couple qui se déchire. Il y a un enfant triste.
Ouais.
Le masque va adorer. Et ben voilà, c'est QFD. La vérité... Pourtant, tiens, en deux mots, quelle punition. Amis auditeurs, n'allez surtout pas voir ce truc qui, en plus, est infiniment long, 2h10. Et pour finir, Eve Guillaume s'énerve déjà contre ce qu'elle appelle un horrible soleil intérieur. J'ai été atterré par la vacuité de ce film. Juliette Binoche est mauvaise, les gros plans sont maladroits. Ce film n'est pas recommandable et je ne comprends pas les critiques positives qu'il a reçues. On va en parler dans quelques instants. On ne regarde pas comme ça, Nicolas. On va en parler dans quelques instants, mais on commence avec un film très attendu depuis, disons, 35 ans. Depuis celui de Ridley Scott, inspiré du roman de Philip K. Dick. Voici donc Blade Runner 2049. Signé cette fois Denis Villeneuve, le cinéaste de Sicario, toujours avec Harrison Ford, un survivant dans tous les sens du terme, c'est un peu le Michel Bouquet du cinéma américain, mais aussi Ryan Gosling en agent K et en chasseur de réplicants dans un monde post-apocalyptique sans mémoire déglingué, 2h40 de cauchemar métaphysique, pour ne pas dire méditatif, visuellement, je dois l'avouer, assez impressionnant, avec notamment de beaux, de longs plans séquences, à tel point que je me demande si dans ce film, où j'ai pas tout compris, l'esthétique n'est pas plus importante que l'intrigue. Ne me regarde pas avec ces yeux de Merlanfry.
Je ne peux pas te regarder autrement qu'avec mes yeux, je suis désolée. Non, tu veux me donner la parole,
pas, non, mais tu n'as pas partagé ce sentiment-là, non ?
En fait, j'ai l'impression d'être un peu seule. Enfin, on a parlé avec Xavier. Xavier, je sais, est un peu comme moi. Mais il y a un tel enthousiasme de la critique.
Ah oui, même, que c'est, même, je me sens c'est même proche du délire.
Voilà.
Ah bon, d'accord. Donc on est d'accord.
Mais oui, on est d'accord, Jérôme.
Ah bon ?
Bien sûr qu'on est d'accord.
C'est parce que t'es malade, alors.
Mais oui. Non, mais malgré tout, Denis Villeneuve, c'est un très grand cinéaste. Hein. Donc on est à un degré, de toute façon, me semble-t-il, où même si on critique le film, on est quand même au-dessus
Sicario, c'était un beau film.
Moi, je ne suis pas fan de Sicario. J'aime pas Sicario.
Mais en revanche, Sicario, surtout.
Jérôme, tu m'as donné la parole. Je peux continuer ? Non, moi, je n'aime pas Sicario, mais je trouve qu'Incendie, par exemple, est un très grand film. Et surtout, Premier Contact. Non, mais Premier Contact, c'était un film de science-fiction qui me paraissait subjugant, qui était d'une poésie incroyable.
Oui,
non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, je m'attendais, étant donné que Premier Contact était un film de science-fiction très beau, à quelque chose de fort. J'ai donc, du coup, été déçue. J'ai l'impression qu'il avance tellement prudemment, comme s'il avait peur de son ombre, et son ombre, c'est Ridley Scott. C'est vrai que c'est pas commode, ce qu'il a à faire. Il a à la fois à être dans les pas de Ridley Scott et en même temps à inventer et à imposer sa propre histoire. Moi, je trouve que l'histoire, elle vaut pas grand chose et elle est assez vite prévisible. Mais surtout, il met une lenteur à tout.
Oui.
Dieu sait que j'aime la mélancolie.
Absolument,
mais alors, une espèce de solennité, d'élégie, de tristesse. Et tout le monde dit que c'est de la poésie. Je suis désolée, mais la poésie, c'est pas forcément de la tristesse. Et il en rajoute chaque fois comme s'il disait.
Mais c'est beau.
Ouais, mais c'est beau, mais au bout d'un moment, on a envie de dire, arrête de nous montrer des plans où tu nous demandes à chaque plan de trouver que c'est beau, quoi. Même là, et je trouve que c'est un film, en fait, très cérébral. Et ça m'a dérangée. Par exemple, la scène où on voit Harrison Ford arriver, c'est une scène dont on sent qu'il s'est dit, celle-là, j'ai pas intérêt à me la louper, hein. Donc, on sent qu'il a réfléchi. On sent que c'est une scène qu'il a amoureusement intellectualisé, réfléchi, etc. Mmh. Alors, je vais pas trop la dévoiler, hein. Mais du coup, elle fonctionne pas. Ça marche pas. Parce que là encore, c'est ralenti par, je ne sais par quoi. Je crois que c'est parce que c'est cérébral. Il y a une venue au monde et une mise au monde à un moment donné chez Wallace. Qui est ridicule, qui marche pas du tout dans Ghost of the Shell. Il y avait une naissance de cet ordre qui était magnifique. Donc voilà, c'est un peu décevant, quoi. Tout ça est un peu décevant.
C'est d'autant plus décevant, encore une fois, que l'accueil réservé à ce film est quelque chose que j'ai rarement vu.
Oui, c'est
toute,
absolument.
Les gens étaient confondus, tous journaux confondus, et quasiment historique. Xavier.
Ben, je me demandais pourquoi ça s'appelait Blade Runner 2049. Je crois que 2049, c'est la durée du film. Hein. C'est absolument interminable. 2h45 pour achever 8 pages de dialogue, grand maximum. C'est interminable. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Sophie. C'est que je vois pas de prudence. Je vois au contraire beaucoup de complaisance chez Denis Villeneuve.
Parce qu'au départ, il y a la prudence et après,
qui est quand même un cinéaste d'une prétention absolue. Effectivement, il a été couronné de succès pour son histoire de cailloux suspendus dans l'air, là, qui était Premier Contact.
C'était
consternant et les meilleures scènes étaient entièrement caillou suspendu et toutes les meilleures scènes étaient pompées sur une série anglaise, mais comme personne ne l'avait vu, personne ne l'a cité. Mais bon, parlons de Blade Runner. Je pense qu'il est tellement content de ces décors magnifiques, ces escaliers interminables, avec des effets de lumière, qu'effectivement il a dit aux comédiens, attendez, ça nous a coûté une blinde, c'est super beau, donc vous avancez très, très, très lentement pour qu'on ait bien le temps de voir comme c'est beau, travaillé, fin. Alors allez-y. Et puis les dialogues, pareil, comme on n'en a pas beaucoup, détachez-les. Ça vous donnera de l'intériorité. La critique française pensera que c'est absolument minéral. À la fin, il y a un décor avec des personnages qui sont figés. C'est pas un décor, je pense que c'est les figurants qui sont arrivés le premier jour et qui ont tellement ennuyé, ont terminé en statue de sel. J'ai eu l'impression de voir un spectacle de Bob Wilson mis en scène par Claude Régis. C'est-à-dire une espèce de succession d'objets design disposés en premier plan, parce que Bob Wilson vend en plus les objets qu'il met dans ses spectacles, et avec ce détachement de Claude Régis, ça ne raconte rien, ça ne prend aucun risque.
Non.
À un moment, il y a un personnage intéressant, on va essayer de ne pas trop révéler, qui est Yamabas, qui est un très bon agent, Yamabas, quand même.
Mais la scène, elle est quand même pas terrible.
Elle arrive à se retrouver sur Blade Runner 2049.
Dans les derniers Matrix, c'est quand même assez ridicule, cette
scène. La scène,
elle
est ridicule.
On est d'accord. Mais sauf que la nationalité de Yamabas pourrait laisser penser, de la part du metteur en scène d'Incendie, qu'il y a presque un message politique à ce moment-là. La double... elle est à la fois palestinienne et israélienne. Donc on peut se dire que cette femme qui appelle un mouvement populaire, un soulèvement à la reconnaissance d'un peuple minoré, on se dit, peut-être qu'à ce moment-là, Denis Villeneuve a l'idée d'une dimension politique. Mais pour le reste, ça a la saveur d'un plat surgelé qu'on a oublié de passer au micro-ondes, quand même.
Mais
ce qui est un peu dur.
Ah ben c'est dur, hein, ça cristallise sous Nicolas. La dent, quand même. Non,
moi j'étais très enthousiasmé par la première heure pour aller vite, parce que je trouve que ça pose plein de pistes très belles. Il y a la première séquence est vraiment très très belle en termes de mise en scène et d'installation. Et après c'est un peu le symptôme que je ressens beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le blockbuster américain on est partagé entre les managers de fast-food qui nous revendent le même plat en nous faisant croire que c'est le plat du jour, et puis à côté des espèces de types qui ont du talent comme Villeneuve ou quelqu'un quand même que je trouve un peu plus intéressant qui est Christopher Nolan, mais on a l'impression que c'est des architectes d'intérieur qui viennent nous donner des leçons de philo et qui oublient de faire un film. C'est-à-dire que voilà, je trouve il y a plein de pistes passionnantes et au bout d'un moment ils se complaient dans cette espèce d'univers qu'ils nous montrent interminablement, un univers soit dit en passant c'est des univers désertiques, des champs de ruines, mais alors où il n'y a pas un gramme de poussière, des intérieurs, on a l'impression d'être dans
des 2049,
à un moment la poésie, faut que la poésie soit incarnée et elle peut aussi être incarnée à travers des décors. Là moi je pense qu'il y a aussi un gros problème, c'est le directeur photo qui s'appelle Roger Deakins, qui fait tous les films de Villeneuve depuis les trois derniers, qui est très connu parce qu'il a beaucoup travaillé avec les frères Cohen, et j'ai l'impression que certains cinéastes se reposent un peu sur son savoir-faire, sur son talent visuel qui est indéniable et c'est un vrai génie de l'image. Et il y a un vrai, moi j'ai vraiment une douleur à dire ça parce que j'avais très envie de voir ce film, et l'intelligence du premier de Ridley Scott, c'est qu'il arrivait à créer un univers foisonnant, mais il se concentrait sur une intrigue de film noir assez simple, ce qui fait que toutes les zones d'ombre, les aspérités de cet univers qui était évoqué, elle était à travers vraiment une intrigue très 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 ténue, et tout n'est pas réussi dans Ridley Scott non plus, mais il y avait, c'est-à-dire là, c'est quand même un film sur un personnage qui se découvre des émotions, on va pas en dire plus, qui se découvre une sensibilité dans un film qui n'en a, j'allais dire, presque aucune. C'est-à-dire que vraiment c'est très difficile de ressentir quoi que ce soit, et ça devrait être le cas à certains moments. Je veux bien que ce soit froid, tout ce qu'on veut, là c'est plus décoratif que froid.
Bon, alors il reste plus que Pierre.
Bah, c'est un film admirable, c'est un film magnifique.
T'es sincère ou t'es pas sincère?
Ah non, je trouve ça, c'est un film absolument splendide.
Donc tu ne nous comprends pas là, donc.
Ah, je comprends pas du tout. Mais je vous parlais d'un autre film, d'un autre cinéaste. Vous en parlez en effet comme d'un blockbuster qui vous aurait déçu d'un blockbuster lent.
Mais non, au contraire. C'est que de la lenteur, l'intériorité, mais trop. Enfin, justement, il n'y a pas de...
C'est juste,
j'ai
l'impression d'avoir des critiques du Texas qui découvrent un film. C'est un film qui est...
C'est qui le critique du Texas?
Mais non, mais c'est vrai, parce que vous faites semblant de croire que c'est un film à l'américaine, à la Ridley Scott, mais alors que c'est un film de Denis Villeneuve qui a un univers à lui, qui a toujours eu cet univers, sauf dans Sicario, qui était un ratage total. Mais non, parce que justement, c'était soi-disant un truc physique. Là, ce qui est absolument magnifique, c'est que c'est un film absolument tarkovskien. C'est-à-dire que c'est une quête. C'est comme si vous disiez, il n'y a pas de sujet dans Nostalgia, ça se résume à 8 pages, et à Stalker aussi. C'est fait pour faire justement une espèce d'effet comme ça, absolument comme une quête qui reste, il y a une quête policière et une enquête métaphysique, avec toute la mélancolie qui vient du passé, de ces femmes aimées comme un peu chez Wong Kar-wai, et ça devient palpitant. Moi, j'ai vécu ce film
en
de 2h40.
Tu l'aimes pour des raisons russes, pour ne pas dire orthodoxes.
Mais alors, c'est-à-dire que oui, d'une part, parce que c'est évidemment ça qu'il a voulu faire, et dans le là où on retrouve Harrison Ford, c'est évidemment l'hôtel de Kubrick. Alors, on peut très bien dire...
Mais
je suis d'accord, Sophie, mais d'accord, c'est autoprogrammé. Mais au moins, disons ce que c'est. Et disons que c'est, en effet, une sorte de quête métaphysique. Et pour une fois que le cinéma américain a un tout petit peu de spiritualité, qu'il ne soit pas totalement conne, moi, je trouve que c'est un film absolument admirable. Moi, je suis sans voix devant un film comme ça.
Blade Runner 2049, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le... Oui, dans le public. Monsieur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai trouvé ça absolument terrible, ce film. C'est complètement vide. Enfin, je suis complètement d'accord avec vous. Heureusement que vous êtes là pour le dire. Vraiment, tous les plans du film, quasiment, c'est vraiment du papier glacé. C'est l'inverse du film de Ridley Scott. Dans le film de Ridley Scott, il y avait une vie derrière chaque décor. Il y avait tous ces jeux de lumière par rapport. Il y avait aussi cette caméra portée à l'épaule qui était extrêmement près. Et là, même le côté film noir du film, donc c'est-à-dire l'axe narratif du film, est complètement noyé par une série de playlists, de phrases pseudo-philosophiques qui n'apportent rien au film et qui noient le scénario du film. Moi, j'ai absolument rien compris à ça. Et ce qu'on oublie de dire aussi sur Ridley Scott, c'est quelqu'un qui est très étrange quand même. On sait extrêmement peu de choses sur Ridley Scott. Il y a peu d'ouvrages qui lui sont consacrés. Mais dans son dernier film, Alien Covenant, il y avait quelque chose de vachement intéressant, moi, qui m'a fasciné dans le film, bien que sa forme soit un petit peu, on va dire, maladroite, c'est que le film dialoguait en permanence avec Blade Runner. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il renversait complètement le rapport de force sociale entre les hommes et les machines.
Bah, c'est
vous,
là aussi.
Vous avez trouvé que c'était là dans Blade Runner ?
Mais bien sûr.
Mais sous forme d'intention.
Mais évidemment. C'est uniquement ça. C'est
mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment au simple stade d'évocation, alors que dans Alien Covenant, il renversait complètement ça avec le personnage de Fassbender qui était presque un aristocrate face à ces humains complètement idiots, et ça devenait quelque chose de plus passionnant malgré la forme maladroite du film.
Merci pour votre intervention. Pas d'autres sur Blade Runner. Je voudrais qu'on évoque d'autres films ce soir. Confident Royal de Stephen Frears, le cinéaste anglais de The Queen. Décidément très attiré par la couronne, le récit de l'amitié dite scandaleuse entre la reine Victoria, que Pierre a connue, je crois, 1819.
Lors de son voyage en Russie.
Veuve depuis un quart de siècle, et son serviteur indien musulman, Mohamed Abdul Karim, alias Munshi. Il était arrivé d'Inde pour participer en 1887, tu t'en souviens Pierre, au jubilé d'or de la reine, et évidemment aux grandes dames de la cour qui est forcément jalouse et raciste.
Il était un peu moins joli garçon que l'acteur, d'après mes souvenirs.
Il est resté à son service jusqu'à la mort de la reine. Très triste d'ailleurs, son successeur Édouard VII l'a renvoyé, je parle évidemment de Munshi, en Inde et a ordonné la destruction de sa correspondance avec Victoria. Le film dure 1h50, c'est Judi Dench et Ali Fazal donc qui s'y collent. Stephen Frears, qui est devenu d'ailleurs, j'ai vu ça sous ta plume, qui est devenu Stéphane Bern pour toi maintenant.
Film le prouve, non?
Non mais j'étais... C'était pour te lancer, hein.
C'est ça. Moi, je suis assez, surpris. En même temps, je trouve que Stephen Frears, il y a eu quelques films où il était pas très en forme. Notamment, je trouvais que le Philomena était un film assez regrettable. On est malheureusement pas dans The Queen où il y avait, je pense, derrière surtout un scénariste qui était Peter Morgan.
Et une comédienne.
Là, il y a une comédienne aussi. C'est un peu c'est un peu l'apparence qui cache la forêt de bons sentiments, et puis surtout quelque chose de très politiquement correct, très gênant dans le film, quoi. Je trouve que il y a aussi un gros problème qui est le personnage du Munshi, qui est alors un acteur d'une fadeur incroyable. On comprend même pas pourquoi Victoria est pris comme ça d'une amitié
dans le film, c'est de manière presque idéologique.
Oui, bien sûr. Oui,
œcuménique.
Bien sûr. Mais il aurait été incarné. Le film est quand même beaucoup axé sur des dialogues entre les deux. Et moi, ce personnage, je le trouve, il est un peu à l'image du film, une espèce de fadeur un peu bien pensante, je trouve ça très triste.
L'histoire étant vraie, il faut le préciser.
Oui, bien sûr, l'histoire est vraie, elle est sûrement passionnante, mais pas sous cette forme-là. Moi, j'ai vraiment eu l'impression je pensais à venir à l'heure du thé, et je me suis retrouvé avec on m'a servi une tisane, quoi. Il y a vraiment quelque chose
On sent que Frears a voulu faire un film édifiant. Pierre.
Oh, tu as peut-être un peu sévère, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur Frears, bien entendu, par rapport à The Queen, je suis d'accord, c'est moins insolent, mais il y a quand même un plaisir évident à filmer, par exemple, dans la première heure, la reine qui baffre, il faut le dire, au début, et puis toute cette cour qui s'agit autour d'elle et qui est complètement traumatisée par l'arrivée d'un ambitieux... Mais quand même, on le soupçonne d'avoir fait Frears le film pour la scène où le copain du héros, indien aussi, insulte le prince de Galles en lui disant...
Voilà, on a l'impression qu'il se réveille d'un coup.
Même plusieurs scènes comme ça où on voit bien pourquoi Frears l'a fait, et c'est pas un film bien pensant. Quand tu dis bien pensant, il n'est pas bien pensant sur l'Angleterre, et il est quand même assez insolent. La première heure, je trouve, se tient très bien.
Quand elle débarque à la cour, et que la femme du Munshi débarque à la cour, qu'elle sort dans son grand voile, et qu'elle dit, alors c'est quand même très forcé, a dit « Oh, qu'elle est belle !» Il y a un moment, ça devient un peu risible, cette espèce justement de vouloir un peu ruer dans les...
Il y a une volonté de comédie, une volonté de farce, mais elle est
quand même très très, très, très mal...
Écoute, montrer la reine qui apprend à écrire et qui apprend pratiquement le Coran, etc., je pense que Stephen Frears rigole dans sa barbe.
Bien sûr, c'est plutôt sympa. Mais il y a une manière de le faire aussi.
Oui, c'est un film complètement réjouissant. Moi, je trouve que c'est un film
réjouissant.
Mais bien sûr, c'est un film rigolo. C'est une comédie qui se mute comme ça en fable politique en passant. Mais c'est pas bien pensant. Il y a une espèce de candeur. Moi, je suis sûre.
C'est un film édifiant.
Mais non, pas du tout. Mais pas du tout.
Alors, il y a des.
Au contraire, je trouve que moi, j'ai l'impression que le personnage dont vous parlez là, d'Abdoul, il débarque des lettres persanes. C'est vraiment ça. Il y a une espèce de candeur, une espèce de truc de conte. Il faut pas que je parle trop fort. Je
rappelle à nos auditeurs qui nous prennent en cours de route que Sophie a perdu une partie de son organe.
Non, mais je trouve qu'il y a une fraîcheur chez cet acteur. Vous dites, il est lisse, etc. Enfin, Nicolas. Mais non, il est réjoui. Il est réjoui de ce qu'il découvre, etc. Et à côté de lui, il y a évidemment le Mohamed qui est au contraire, lui, l'inverse de lui. Mais ça, c'est du plaisir, ça. Et je trouve que la façon dont Stéphane Frears, évidemment, se moque de la couronne britannique, se moque du protocole, se moque des préjugés, et qui passe par les détails. Par exemple, ils arrivent, ils sont déguisés. C'est dingue. Ils arrivent d'Inde, ils ont fait 8000 kilomètres. Ils sont indiens et on les déguise en indien, c'est-à-dire qu'on leur dit pas mettez-vous comme on est habillé en Inde, on les habille comme les Anglais voudraient que des Indiens soient habillés. Tout est comme ça, il y a des détails sans arrêt comme ça. La reine qui roule dans son lit et qu'on essaie de réveiller parce qu'elle bafre tellement qu'elle dort comme un et qu'elle ronfle, etc. Tout passe, la gélatine qui vacille, il y a comme ça plein de détails.
La gélatine a toujours vacillé.
Non mais c'est de rigolo, mais d'accord, mais Jérôme, tu peux pas penser qu'il filme ça sérieusement. Oui. La gélatine
sauf,
alors, qui...
Oui, sauf qu'à côté de ça, alterne des scènes de dialogue entre les deux.
Moi je pense qu'il est très proche.
Le vrai problème c'est vraiment l'équilibre, c'est-à-dire que ça...
Mais moi je trouve qu'il le trouve détails, et qu'il arrive à mélanger...
On a l'impression qu'il se réveille de temps en temps en disant « Attendez, je suis Stéphane Frears. »
Le film baigne dans une espèce... Non, franchement Nicolas, le film baigne dans une espèce de candeur dès le départ qui est évidemment amusé, avec un œil un peu caustique mais tendre à la fois, et encore une fois, se termine en fable politique qui est vraiment réjouissante, vraiment.
Xavier.
Moi, je pense que le problème du film, c'est le choix du genre, justement, qui fonctionne très bien pendant la première partie. Il fait une espèce d'opérette à la Gilberte et Sullivan, où on va beaucoup rire de ces couloirs qu'il faut traverser, avec effectivement des plats et des gelées qui vacillent, avec un petit gamin qui hurle dans les couloirs des cuisines jusqu'à la grande salle du palais. Elle arrive, elle est là. Mais quand il faut traiter le sujet politique, la dimension tragique, il y en a quand même un qui ne reverra jamais son pays, qu'on va laisser mourir au dernier étage, il y a quand même tout un jeu géopolitique qui se trame à travers ça, ça ne marche plus, l'opérette, ça ne marche plus. Mais
moi,
non, il le montre parce que c'est dans l'histoire vraie, mais il ne le filme pas, la noirceur n'y est pas, la tragédie n'y est pas. Effectivement, on a un problème parce que l'acteur, il est peut-être très joli, mais il est très mauvais. Il est vraiment pas bon du tout.
Mais non, il est réjoui comme un ravi de la crèche.
Mais non, oui, alors le ravi de la crèche, il ouvre des grands yeux, mais on a l'impression que tout passe. Il reste quand même plusieurs mois,
il voit si des choses,
on travaille plusieurs années.
Mais en plus, c'est un petit ambitieux aussi. C'est montré aussi.
On peut le penser, en tout cas, le film a de l'ambiguïté.
La deuxième partie, ça devient gênant que tout soit effectivement sous forme de feel good movie rigolo, alors qu'il y a des sujets qui sont là, qui sont vraiment extrêmement forts sur la colonisation, sur la place de l'Empire britannique à l'époque. Il y a des choses déterminantes et on a l'impression que tout ça, c'est toujours anecdotique, c'est toujours décorant, c'est toujours une jolie petite histoire. Là, il s'est trop reposé sur son histoire en disant « c'est pour moi, c'est parce que je suis Stéphane Frears », mais il n'a pas fait le taf, quoi.
Confident royal, Stéphane Frears, pas de réaction, non. Le film maintenant qui divise la critique, Un beau soleil intérieur, qui est vraiment adoré par les uns, détesté par les autres. Le film donc très bavard de Claire Denis, et co-scénarisé par Christine Angot avec Juliette Binoche et messieurs entre autres, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchel, Gérard Depardieu, Bruno Podalydès, Philippe Catherine et Juliette Binoche. L'héroïne du film, c'est Isabelle, l'artiste peintre divorcée de Laurent Gréville, mère d'une enfant qui voudrait vivre un vrai et grand amour et dont le film va décliner les désillusions d'homme en homme, du comédien alcoolo, banquier marié, du galeriste au médium. Ça, lui, je l'aime beaucoup, c'est Depardieu. Du jeune au vieux, du gros au maigre. Il paraît que le point de départ de Claire Denis et de Christine Angot, ce sont les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Si c'est le cas, on n'est pas couché, parce que c'est pas un sentiment que j'ai éprouvé, mais je crois que certains d'entre vous ont beaucoup aimé ce film. Tais-toi.
Encore moi qui vais.
Sophie.
Oui, les fragments du discours amoureux, elles ont laissé ça très loin derrière. Hein,
oui,
très
mais
vite, elles sont passées.
Je parlais de l'inspiration du début.
Bah, il en est resté des fragments, disons.
Oui.
Mais
oui,
pas
ouais.
le discours amoureux.
Il est resté en go. Il n'y a plus de Barthes, quoi.
Oui, bon, et pourquoi pas. Enfin, moi, j'aime le film. Je trouve que on n'attendait pas Claire Denis sur un registre de cet ordre, intime, amoureux, et puis facétieux quand même. Hein. C'est un film qui a de la mélancolie, mais que moi, je trouve drôle. Je trouve que c'est un beau portrait de femme, parce que il est. Je trouve que Juliette Binoche est formidable dedans. Je trouve qu'elle est lumineuse, etc. Et ce que j'aime, c'est la façon dont Claire Denis montre ce personnage en train de se construire. Et je trouve que cette femme, qui est dans la difficulté de la vie, au jour le jour. Enfin, on revient beaucoup sur cette histoire de on piétine, on tourne en rond, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et c'est des personnages qui n'y arrivent jamais, qui n'y arrivent pas. Elle est toujours au bord des larmes, en même temps, elle est au bord de rire. Et en même temps, elle a ce grand rêve d'amour. Et je trouve que ça, c'est très féminin, ça. Et je trouve que ça, c'est bien vu. Et je trouve que le cinéma se saisit assez peu de ça dans la vie. Ces toutes petites choses, ce pointillé du réel, je ne sais pas comment le dire autrement, qui fait qu'on a du mal, mais on y va quand même. Parce qu'on fait ce qu'on peut. Et c'est un éloge de, finalement, la progression par ce qu'on peut. Et d'ailleurs, la fin, c'est ce magnifique épilogue avec Depardieu, qui permet de voir le film de manière rétroactive, un peu autrement, qui dit... il faut pas se mettre la rate au courbouillon. Rien que ça, moi, je trouve que ça devient un mantra merveilleux, quoi. Bon, voilà. J'adore ce film.
Ah ben, c'est-à-dire que moi, c'est un film qui m'a mis tellement en rage que ça m'arrive assez rarement, mais j'ai frappé du poing sur les murs du cinéma tellement j'étais, mais en colère, en rage contre ces êtres.
D'autant que ton journal en avait dit beaucoup de bien.
Alors voilà, mon excellent confrère Louis Guichard a fait un magnifique papier. Si j'aurais dû voir le film avant, car j'aurais fait un contre, bien entendu, je trouve que c'est un film, mais détestable. C'est un film, mais petit, médiocre. C'est un film qui montre les femmes, mais d'une façon absolument nulle, parce que tu dis ah oui, on est comme ça, on cherche l'amour et on continue.
Mais ça, était comme ça.
Non, mais ça, attends, oui, féminin, tu l'as pas dit ça. Comme ça, tu l'as dit mieux que moi, bien sûr, en non, étant favorable. Mais moi, je dis simplement que forcément, évidemment, quand on voit Juliette Binoche et qu'elle dit ah pourquoi que je peux pas trouver, ben évidemment que tu peux trouver personne parce que t'es tellement insupportable que personne ne peut rester contre toi. Elle est insupportable.
On peut être insupporté par elle, je te l'accorde, non, mais elle est quand même objectivement jolie.
Et alors les mecs, alors la description des mecs, c'est encore pire, parce qu'on va du macho Beauvois qui arrive avec un bouquet et qui dit « je vais te sauter » ou « te niquer », pardon. Et alors l'acteur Nicolas Duvauchel, c'est « je voudrais monter chez toi ». Non, tu ne monteras pas chez moi. Oui. « Je voudrais monter chez toi. Est-ce que je pourrais monter chez toi ?» Non, tu vas.
Ah non, mais il parle des dialogues.
Des dialogues, tu vas monter chez moi. Mais j'aimerais bien que tu montes chez moi. Mais est-ce que tu crois vraiment que tu as envie que je monte chez toi? Ça dure 8 minutes. Ouais. C'est insoutenable. Le personnage de l'acteur, le réalisateur...
Xavier Beauvois.
Alors, au second degré, évidemment, vont me dire, mais c'est drôle, c'est au second degré. Il dit, mais je pourrais coucher avec une fleuriste, mais jamais tomber amoureux. Tout ça, finalement, est nul et non avenu. C'est du 16e, c'est germano-cratin.
C'est surtout les clichés. C'est surtout les clichés.
Non, justement, c'est pas du 16e. Je suis pas d'accord.
C'est surtout les clichés.
Mais c'est épouvantable ce que ça dit, ce que ça montre. Et alors je précise que j'aime bien Christine Angot quand elle écrit, quand le style d'Angot. Mais ses personnages sont nuls et la mise en scène étant extrêmement plate. Mais c'est une épouvante pour moi ce film. Ah oui. C'est une épouvante.
C'est Xavier.
C'est pas Tarkovskien, donc si je comprends Xavier. Bien. Il n'y a pas de ça. Moi je suis partagé.
Ça pourrait être Tchékovien.
J'arrive pas à trouver
ça
mon
veut
temps.
Ça pourrait...
J'ai revu
on
le
On peut
film.
Pas être partagé sur un film pareil.
Bah
non.
Si, j'étais
non.
dubitatif à Cannes. Je suis encore dubitatif à Paris. Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup dans le film. Une scène en particulier avec Xavier Beauvois dans un bar d'hôtel où il humilie le garçon qui est là et la scène flotte et je trouve que là il y a vraiment de la mise en scène parce qu'elle va choper ces trois petits plans séquences bout à bout. Il y a vraiment un moment de séparation d'un couple qui, ouais, absolument, qui est en train de rompre, qui est en train de concrétiser la rupture et de mettre des mots. Je la trouve minimum. Non, c'est pas un minimum syndical. La scène où elle danse avec Paul Blin, absolument sublime, et la scène de drague avec Alex Zeska dans un Paris nocturne où il la caresse comme ça du bout de la joue.
Et les 16 minutes de fin.
Et en revanche, et évidemment la scène de fin qu'on ne regarde pas. Et en revanche, je suis d'accord avec Pierre, là, il y a des moments interminables de dialogue faussement improvisés qui ne mènent pas très loin. Il y a une scène où elle pète les plombs avec des intellectuels à la campagne. Je ne la comprends pas. Je l'ai revue il y a pas longtemps. Je ne la comprends toujours pas. Je ne sais pas ce qui la justifie. Je ne sais pas ce que ça nous dit du personnage. Après, je me dis que je déteste pas ce principe de rupture fragmentée. Ça, Sophie l'a magnifiquement dit tout à l'heure. Mais pour autant, si tu as eu le fragment,
tout ce qui est excessif
fragmenté
est insignifiant.
Mais enfin, en même temps, c'est gentil de dire ça.
Oui. Mais t'es dégueulasse. T'as rien dit à Pierre qui était dans l'excès tout à l'heure.
Non, pas du tout.
Sur le film, parce que tu es d'accord.
Non, pas du tout.
Non, mais j'adore la
mauvaise
joie. À la solidarité des mecs.
Pierre, voilà. Pierre était très lucide.
Et ben, c'est à cause de cette solidarité-là que je veux dire que le film, il est formidable et qu'il faut y aller.
Nicolas.
Non, mais alors, moi, étonnamment, parce que vraiment, Claire Denis, pour moi, c'est une fois sur quatre. Et puis, en gauche, je suis pas spécialement très lecteur. Et je trouve qu'il y a une espèce de charme et de grâce dans ce film qui vient, je pense, à la fois du mélange de deux extrémités très contraires presque. C'est-à-dire espèce de spleen et de sensualité que peut avoir Denis dans sa mise en scène, et à la fois ce côté très abrupt, parfois un peu facile, et cette espèce d'humour un peu dépressif et névrotique d'Ango. Il y a comme ça un mélange des deux qui donne quelque chose d'assez de très beau. Moi, je vois, pour moi, ce film, c'est une espèce de complainte un peu de jazz comme ça, où chacun, il y a un soliste qui vient régulièrement. Chaque couplet, il y a un soliste qui vient donner sa partition. Au début, elle est harmonieuse, elle finit tout le temps par une espèce de dissonance, et puis à la fin, il y a cette espèce de ce qui est très beau, c'est comment Depardieu arrive dans le film. Je vais pas trop en dire non plus, mais il y a une scène très courte. Ah oui. Et puis après, il y a ces 16 minutes dans une espèce d'état de grâce incroyable, et on comprend en fait que Depardieu, c'est un peu le pendant masculin de. Il y a presque une phase B qu'on aurait envie de voir, qui est le pendant masculin du personnage de Vinoche.
Et il devient comme les autres. Et avec la scène avec Valéria Bonnet.
Non, c'est la seule scène d'amour du film.
Aussi crétin que les autres.
Non, c'est la scène. Non, il est maladroit, il est un peu bêta parfois, mais c'est la vraie scène d'amour du film qui passe à travers les mots. Et pour moi, il y a quelque chose. Dans ce film, c'est à travers les mots que l'amour ou la détestation. Il y a vraiment quelque chose de très beau là-dedans. Et je trouve que c'est un très beau film d'acteur. Moi, Binoche, elle a tendance parfois vraiment à m'énerver, à surjouer. Là, je trouve qu'elle elle est naturelle, elle est libre, elle est abandonnée à quelque chose.
Elle est pas bonne.
Si, moi, jusqu'à elle arrive, justement, elle est beaucoup moins. Elle est beaucoup moins.
Elle est formidable.
Elle
fabrique
cette fois-ci qu'elle est. On a l'impression qu'elle est surprise parfois par la scène. Et le film, il y a un côté imprévisible et assez libre qui me réjouit. Et puis Philippe Catherine qu'on croit c'est le poissonnier.
Non, c'est plus possible ça.
Non, ça c'est pas le
Philippe Catherine chez poissonnier, ça je dis aïe. Non, ça va.
Mais si.
Ça va.
Mais venez dans le Lot. C'est drôle, le Lot chez le poissonnier.
Tu le fais très bien, oui.
Je pense que c'est un jeu de mots qu'elles ont beaucoup travaillé.
Oui, un beau soleil. Un beau soleil intérieur. C'est donc Claire Denis. Des réactions sur ce film. Oui. En haut du studio, le micro vient vers vous. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. À retenir, Sophie vient de le dire, c'est effectivement la fragilité du personnage principal, donc de la jeune femme, Juliette Binoche, ses incertitudes, son mal-être, parce qu'elle voit la vie qui avance. Mais effectivement, je crois que c'est le personnage respectable du film. Les hommes ne sont pas très recommandables, ni les uns ni les autres. Et je crois que Xavier Beauvois fait une performance assez remarquable dans ce personnage odieux du banquier, une véritable tête à gifle. Et effectivement, la scène du bar où il humilie le barman est assez exemplaire. Et j'ai repensé à ce moment-là à ce que disait un jour Lino Ventura dans une interview à France Inter. Il disait que quand il allait dans un bar, il disait toujours aux garçons « Monsieur, mademoiselle, madame ». Et effectivement, Xavier Beauvois est l'antithèse de ce que disait Lino Ventura, et vraiment, on a envie de le gifler. Et je n'avais qu'une envie, c'est que le barman prenne le cocktail et lui jette à la figure. Ça, il l'aurait mérité, vraiment. Mais autrement, c'est un film qui n'est pas à négliger et qu'on reverra avec plaisir, peut-être dans un ciné-club. C'est pas un chef-d'œuvre.
Vous parlez pour vous. Merci pour votre intervention. Happy End, Michael Haneke, qui a été présenté, très mal reçu, il faut le dire, à Cannes, avec le toujours, je persiste, impressionnant, Jean-Louis Trintignant, avec aussi Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz, un film qui nous plonge dans une famille de la grande bourgeoisie du nord de la France, dont Trintignant est le patriarche en fauteuil roulant. J'insiste sur le fauteuil roulant parce qu'il va avoir, si j'ose dire, un rôle moteur à la fin du film.
Oh, joli.
Bravo.
Et que je ne révélerai pas.
Tu ne révéleras pas. Attention à la pente. Une famille, les Laurent, qui doit sa fortune au BTP et dans laquelle on compte une fillette, c'est le tout début du film, qui a empoisonné son hamster. Je crois que c'est un hamster. Hein. Et peut-être sa mère, une femme, que dis-je, une superwoman, c'est Isabelle Huppert, qui essaie non sans mal de sauver l'entreprise familiale. Son frère, Mathieu Kassovitz, le père de la petite empoisonneuse, qui préfère sa maîtresse à sa femme. Et puis encore un petit-fils alcoolique, et le mot est faible, avec en sourdine un terrible accident de chantier et en point d'orgue, un déjeuner de mariage, ça c'est à la fin du film, au bord de la mer. Huppert va épouser un avocat d'affaires anglais avec l'arrivée des migrants de Calais qui mettent sans dessus-dessous la dynastie des Laurent. Bref, ça se passe en France, mais c'est un peu la version autrichienne, pour ne pas dire anakienne, du fameux « Famille, je vous hais ». Alors, les amateurs, on peut le dire, de nuances peuvent s'abstenir. Xavier ?
C'est pas fin, c'est vraiment pas fin. Je me suis dit à Cannes, bon, peut-être que tu l'as mal reçu. Moi, je suis plutôt fan, généralement, de Michael Haneke, donc je lui ai redonné une chance. Je suis retourné à Paris, en salle, et là, je me suis beaucoup amusé, parce que comme il y a une grande partie du film qui se fait soit par texto, soit par message internet, la population un peu âgée du film, qui était au dernier rang, a commencé à migrer vers les premiers rangs pour pouvoir voir ce qui se passait à l'écran. Parce qu'il voyait rien.
On t'exagère.
Je te jure. On entendait dans la salle, mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit?
Oh non. Ça, c'est méchant.
Je suis désolé, c'est vrai. Je l'ai vu. Il y a une transhumance vers les premiers rangs. Et même moi, je dois avouer qu'effectivement, je me suis rappelé qu'à Cannes, j'avais pas réussi à tout lire.
Pourtant, t'es appareillé à Cannes.
Mais je suis appareillé à Cannes. Et toi? Bon, en même temps, cette fois-ci, j'ai bien lu et c'est tellement consternant de bêtises que j'aurais préféré rester sur ma première impression, c'est-à-dire de pas avoir très bien lu ce qu'il y avait à l'écran. Pierre, tu haussais les yeux? Non. Elle a sans doute quand même mis des calmants dans le thé de maman.
Oui, elle le dit par texto.
Non, elle le dit par texto. C'est comme ça qu'on se débarrasse de la vieille.
Non, je voulais rien
pas que le divulgateur numéro 2 dise, révèle ce fait.
Non, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Après, se concentrer de perversion dans une famille bourgeoise de l'industrie.
Grand bourgeois
qui n'existe plus. En plus, j'ai l'impression que le film, il n'est pas à la bonne époque, il n'est pas au bon moment, il n'est pas dans le bon curseur social. J'ai l'impression que tout ça, ça concerne mes 0,023% de la population. Et que si le racisme et l'indifférence existent encore, il faudrait peut-être descendre un tout petit peu dans d'autres couches sociales pour aller s'intéresser à cela. Parce que ça, c'est un peu compris, j'allais dire, dans le packaging. Oui, ils sont bourgeois. Oui, ils sont blancs. Oui, ils sont décadents. Alors, il y a des échanges de mails sur la perversité sexuelle.
Voilà, décadence, c'est quand même.
C'est ridicule. Ça, je veux que tu me prennes par le cul, je veux que tu me pisses dessus. Oh, mais mon Dieu. Ça, mais vis à quelle époque?
En soi, c'est pas choquant.
Ah, pardon, mais choquant.
En soi.
Rien
de le dire.
Mais c'est d'écrire mal, en plus. C'est pas bien écrit pour être trouvé un style. Alors, ils ont tous leur perversité.
Ça, je reconnais que c'est pénible.
Ils ont tous leurs secrets. Ils sont tous parricides, matricides, patria. Mais il y a un moment, ça ne mène à rien. C'est-à-dire,
on comprend le geste final de Trintignant, entre parenthèses.
Ah, bah, moi, je l'aurais fait avant, personnellement. Mais, et alors, ce qui est terrible, c'est que si, et je dis vraiment si, en insistant sur le si, au cas où personne n'aurait compris, si c'est pour nous donner une leçon sur notre indifférence face aux migrants, ce qu'il en fait dans le film,
la scène est
au-delà, il y en a deux, ouais. Et à chaque fois on n'entend jamais leur voix, c'est une première scène où effectivement Trintignant les croise dans la rue, on entend vaguement Trintignant, eux, jamais, et à la fin, pareil, quand le fils commence à nous dire, alors lui, sa femme et ses enfants
au mariage.
Et puis voilà. Et puis après, terminé, c'est une masse grouillante de gens qu'on va finir par accueillir parce qu'on peut pas faire autrement. Bah, je suis désolé, ce qu'il fait.
Bah là, l'hypocrisie, elle est montrée pour le coup, parce qu'ils finissent par les accueillir parce qu'ils sont un peu forcés.
Mais le problème, c'est qu'il l'est aussi.
Il les filme pas de Nicolas. Bien,
bah, c'est qu'il est terriblement hypocrite à ce moment-là, quand même.
Non, moi, je trouve que
les prix de leur parole,
On peut sauver le film quand tu dis, Xavier, que tout est grossier et stupide. Il y a quand même la relation entre la petite, qui est jouée par Fantine Ardouin, qui est assez impressionnante.
Fantine Ardouin.
Et Trintignant, qui est le patriarche, le vieux.
Il y a deux scènes
qui sont quand même très, très, d'une perversité, d'une cruauté, et à ce moment-là, d'une finesse quand même assez dingue. Et ce qui est beau, c'est que le personnage de Trintignant comprend que c'est une forme de prolongement de celui d'amour. Et il y a chez lui, et puis Trintignant, c'est Trintignant qui l'incarne, quoi. Il y a une manière de dire les phrases. Il y a un moment, il raconte une histoire terriblement sordide à la petite.
Ah, mais lui, il est très bien.
Avec une manière de dire déchiquetée, qui est assez, assez
les acteurs
incroyable.
Sont pas en cause.
Et là, il y a quelque chose de l'intelligence d'Haneke qui se joue. À côté, j'ai l'impression d'un film inachevé où il laisse plein de pistes en suspens. Et voilà, il y a vraiment un sentiment d'un film bis qu'il a fait parce qu'il pouvait pas faire un autre projet. On va peut-être pas rentrer en détail, mais il avait un autre projet. Il a pris des morceaux.
Il y a encore deux films.
Non, c'est voilà. À côté de ça, c'est vrai que c'est très décevant.
Pierrot, il y a deux scènes très réussies. C'est en effet celle que joue Jean-Louis Trintignant et la petite Fantine Ardouin, parce que là, c'est vraiment très pervers. Et c'est du grand Haneke. Et puis peut-être, si on est très 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 gentil, les scènes du début qui évoquent Caché avec cette caméra vidéo qui filme, bon, etc. Et le seul le plus désolant, c'est évidemment les migrants qui arrivent à la fin, parce que ça voudrait être bunuelien, et c'est pas du tout bunuel.
Oui, on commence à bien connaître le système de Haneke et l'habileté de ses dispositifs. Alors on en attend toujours beaucoup, et c'est vrai qu'au début, moi j'ai revu ce film en me disant c'est quand même super théorique, etc. Et quand même à la fin, je trouve que sa galerie de portraits, et Dieu sait qu'ils sont procès à la va-vite, hein, quand même, parce que d'abord ils sont nombreux, mais qu'en même temps ils s'éclairent les uns les autres. Et bien à la fin, malgré tout, j'ai été complètement vraiment frappée par une terrible humanité qui se dégageait. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'ils sont... Oui, enfin magnifique, une humanité qui fait que, oui, ils sont dégueulasses, oui, ils sont monstrueux, oui, ils sont tout ce qu'on veut, mais c'est nous. ils sont faits à notre image.
Je t'en prie.
Et ben moi, je l'ai ressenti comme ça. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et le film m'a touchée à ce moment-là. C'est-à-dire que pour passer du théorique que je trouvais au début,
mais je comprends ce que tu veux dire,
à ce que j'ai ressenti
mais moi,
après,
pas un seul instant, je me suis reconnue dans ces gens-là.
Oui, même cette petite fille, même ce vieil homme qui essaie de mourir, qui passe son temps à essayer de mourir, ils sont terriblement humains, ces gens-là.
C'est les plus lucides et les plus touchants.
Et ils sont super.
Ce sont les plus malades, ceux qui essaient de
Et les Marocains.
Appienne, c'est Anneke, vite encore deux films. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Le sens de la fête, évidemment, le nouveau film du duo gagnant des Intouchables, Olivier Nakache, Éric Toledano, avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve en photographe, Gilles Lelouch en DJ, Vincent Macaigne en prof de français devenu serveur, Hélène Vincent, Benjamin Laverne, le scapin du français, j'en oublie, et Jean-Pierre Bacri, c'est Max, l'organisateur et traiteur de mariage depuis 30 ans, qui commence à fatiguer et qui pense à passer la main. Il lui reste à traiter un ultime, sublime mariage dans un château 17e. Évidemment, rien ne va se dérouler comme prévu. Je vous passe les détails par manque de temps. Ça sent plutôt le gros succès en salle. J'en suis pas sûr, hein. Dites-moi vite ce que vous en pensez, Pierrot.
C'est pas trop mon cinéma. C'est-à-dire que c'est très bien fait. Mais, moi, j'ai déjà vu ça. Il me semble avoir vu ça 10 fois, 15 fois. Il y a eu Pièce montée de Denis Granier de Fer. Il y a eu Mariage de Valérie Guignabaudet. Peut-être un peu moins bien, mais pas tellement mieux.
Et les Italiens.
Et les Italiens. Il y a une série télé qui passe actuellement, Quadra. C'est absolument ça. C'est la même chose. Donc, c'est plutôt bien écrit. C'est très bien joué, mais ça rappelle en même temps les vaudevilles qu'on montait en France dans les années 50. Enfin, c'est ça. Enfin, c'est du cinéma très, 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 très vieux. Mais ça plaît, les gens sont contents, ils rigolent, ça va faire 8 millions d'entrées, youpi. Mais c'est pas un très, 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 très bon film, contrairement à ce que certains confrères ont écrit.
Xavier.
Moi, je le défends, mais alors vraiment sans aucun problème. Ils font très bien le boulot, ils écrivent les personnages, c'est virevoltant, ça fonctionne en termes de mise en scène. Il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième plan où les personnages existent. Je suis désolé. Il y a un ou deux personnages sacrifiés, mais pour autant, pas original. Bien sûr, Pierre, on est entièrement d'accord avec toi. Mais pour autant, ça dure 2 heures, c'est écrit, c'est drôle, c'est émouvant à certains moments. Suzanne Clément est bouleversante dans le film. Pourquoi, au nom de cette idée que la comédie française est morte, qu'on ne fait plus rien, on est en train d'enterrer parfois des films qui sont tout à fait bien faits.
Ah oui,
ils soignent jusqu'au
bout.
Celui-ci, par exemple, le sens de la fête, ils soignent jusqu'au bout les personnages, les situations, les quiproquos. Il y a cette façon très drôle de raconter pourquoi est-ce qu'on emploie des feuilletés aux anchois dans certains mariages. La prochaine fois où on vous apporte un feuilleté aux anchois, vous saurez pourquoi et vous pourrez deviner. Je suis désolé, ça fonctionne, le choral fonctionne, personne n'est laissé au bord de la route.
Alors,
les personnages sont là.
T'aimes pas Villeneuve et t'aimes Olivier Nakache, c'est ça.
Mais oui, mais c'est une question d'ambition. Aimer la modestie à défaut de la prétention.
Pourquoi pas, Xavier?
Mais c'est une question d'ambition. En plus, j'adore Tarkovsky, mais qui ne filmait pas que les décors.
Oui.
L'autre non plus.
Le film est modeste et il y a des choses qui sont pas mal et assez drôles dans le film, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas brillant. Ils ont des les personnages sont tous très monolithiques. Tu as le déprimé, tu as le
ça
la grande gueule,
tu as le machin, tu veux pas qu'il
non mais alors pour le coup
il manque
coup,
l'écriture d'Angot, je trouve, derrière.
Ce que je trouve en revanche, c'est que c'est très long, ça aussi. Moi, il y a des moments où j'ai ri, je vais pas vous démontrer mon plaisir. Enfin, je trouve que d'abord Bacri, moi je trouve pas très bon, je trouve qu'il surjoue, et du coup, comme c'est le chef d'orchestre, tout le monde surjoue derrière lui, et en plus il commente tout, il surjoue et il commente, alors je trouve ça c'est très gênant. Au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Moi, j'en avais marre, j'en pouvais plus. 2 heures, j'ai trouvé ça hyper long.
Non, je suis d'accord avec Xavier. Il y a une vraie générosité dans le film. Il y a une vraie, j'ai pas dire une virtuosité, mais un vrai talent.
Ça, c'est bien pensant.
Un vrai
pour
talent.
Le coup. Ce film-là est bien pensant.
Mais pas tant que ça, parce que justement, il y a un discours à la fin que fait Bacri, qui est quand même très. Ils ont quand même tourné ce film avant les élections dernières. Et il y a vraiment un côté très Macron dans le patron de PME.
Si
il y a un portrait de la France d'aujourd'hui qui est très sympathique, chaleureux, et pas forcément toujours. Non, mais. Et pas si attendu que ça, parce qu'il faut voir par exemple ce qu'ils font. Je vais pas en dire trop encore, je vais pas faire mon gageur à fin.
Mon Murat, dis-le.
Mais il y a ce qu'ils font de deux personnages d'Indiens clandestins qui font partie de l'équipe du mariage et la manière dont d'un coup ils sont mis en avant pour après être remis encore sur le côté. Et c'est pas anodin, ça dit aussi comment la France traite ces personnages-là. Non, mais c'est des petits détails. Non, mais vraiment.
Quand ils se lâchent un peu, c'est mieux. Mais je trouve
en même temps, c'est un hommage à deux parties, moi, qui m'a un peu touché, mais un très, 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 comme ça, très discret.
hyper contrôlé en plus, tu vois. Il est tellement oui, cadenassé.
Oui,
ce
mais il y a quand même, il y a des idées. Tout ne marche pas, mais il y a tellement, il y a un foisonnement d'idées. Il y a un moment où le marié veut absolument faire une performance. Il faut dire aussi qu'il y a un mélange de comédiens qu'on voit rarement ensemble. C'est-à-dire que ça va de Jean-Paul Rouve et Bacri à des gens de la Comédie Française qu'on connaît moins, comme Benjamin Laverne. Et ce mélange-là, je trouve qu'il ressemble aussi à ce qu'ils essayent de faire, de mélanger. Il y a toujours cet esprit de collectif et joyeux chez eux. Et ils savent de quoi ils parlent parce que les mariages, pour avoir été un peu dans les coulisses aussi moi-même dans mes heures perdues, oui, je n'en dirai pas plus. C'est vraiment très proche de. Voilà, et les feuilletés, on comprend pourquoi.
Tu as été traiteur.
J'ai pas été traiteur, mais j'ai plutôt le rôle de Gilles Lelouch. J'étais plutôt Gilles Lelouch pour vous, voilà.
Le sens de la fête, c'est un peu le bordel, cela dit, ce film, comme dirait Macron. Et c'est donc le nouveau film de Nakache et Toledano. Allez, rapidement, demain et tous les autres jours, le nouveau film de Noémie Lvovsky, que j'aime beaucoup, ce film. Avec la Noémie Lvovsky, la petite Luce Rodriguez, Mathieu Amalric, sans balibar, Anaïs de Moustier et la voix de Michel Esco transformée ici en chouette. Et dès la première scène du film, on sent qu'il y a un problème, hein, puisque la mère, c'est Noémie Lvovsky, accompagne sa fille Mathilde, qui a 9 ans, c'est donc Luce Rodriguez, chez la directrice de son école. Et pour une simple question de syntaxe, la mère déraille, elle est folle. Le père, on peut le comprendre, a quitté la maison. Le film est l'histoire du couple étrange, pour moi bouleversant, formé par cette mère, qui erre dans Paris en robe de mariée, qui prend le train pour nulle part, qui fait ses cartons en vue de déménagement imaginaire, et cette fille, qui la protège, quand elle ne se réfugie pas dans sa chambre. La fin, je vais pas la raconter, Pierre. Je peux juste te dire qu'elle se déroule dans un jardin sous la pluie et que la petite Mathilde est devenue, elle a grandi, elle est devenue Anaïs de Moustier. Un film coécrit par une très, très bonne romancière qui s'appelle Florence Sévoz. Elle avait fait un roman que j'aimais beaucoup qui s'appelle Garçon incassable. Quelques mots pour me dire ce que vous en pensez. Si vous en pensez du mal, vous vous taisez. Sinon, Sophie...
Alors, écoute, moi, je suis désolée. Je trouve qu'il y a deux films dans le film. Il y a un film dedans que j'adore. C'est le film dont tu as parlé, c'est-à-dire cette petite fille avec cet amour qu'elle a pour sa mère. Et c'est son initiation qui va apprendre et grandir comme ça que son amour ne suffit pas à sauver sa mère. Et que l'amour de sa mère pour elle n'est pas suffisant non plus pour la sauver. Et c'est en cela qu'elle grandit. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très, très beau. Après, je trouve qu'il y a un deuxième film, malheureusement, dedans, qui est un film un peu plus remplissage, où on a l'impression qu'elle nous fait un peu du pittoresque sur les enfants qui sont obsédés par la mort.
C'est surtout
le côté un peu jeu
interdit. Non, c'est la tendance un peu fantastique.
Ouais, mais moi, la chouette, ça me déplaît pas. Mais c'est plutôt tout le côté avec le squelette, tous ces trucs que je trouve un peu pénibles, l'incendie, toutes ces choses-là, que je trouve en trop, que je trouve pas. Après, quand elle s'en tient à cette relation, effectivement, entre cette fille et cette mère...
Et le regard de cette petite sur sa mère...
Et surtout cette petite fille qui réalise... Cinéma, oui, et cette petite fille qui réalise que son amour ne suffira pas à sauver sa mère. Ça, c'est poignant. Ça, c'est très, très beau.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Sophie. C'est à la fois objectivement un film un peu inégal, parfois inabouti. Première scène extraordinaire. Deuxième scène immédiatement après, interminable, avec la robe de mariée, elle erre dans Paris. On a compris la folie, alors qu'elle était beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus subtilement mise en avant dans la première scène. J'ai passé mon temps à trouver des moments fulgurants et des moments décevants. Et pourtant, je dois le dire, et tant mieux, je suis sorti ravagé, bouleversé, mais vraiment. Alors que pendant le film n'avait pas convaincu constamment, mais je trouve qu'elle arrive à sédimenter quelque chose. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, tu vois, je l'ai dit modestement, elle arrive vraiment effectivement à parler de cet amour qui voudrait sauver une mère qui est en train de partir à la dérive et qui n'y arrivera pas. Et du coup, la fin est... vraiment très belle, impressionnante, elle est somptueuse. Et
je trouve que la manière dont Noémie Lvovsky, qui est donc devant et derrière la caméra, incarne une folie qui est difficile à définir.
Il y a des moments de remplissage, il y a des moments de scène un peu longue qui tire. L'incendie, c'est interminable. Bon.
Oh là là,
Pierre.
Ah, moi j'aime beaucoup, je ne m'attendais pas à aimer, mais...
Prends ton temps, hein.
Oh là là, une mère folle.
On n'a pas de problème de temps.
Je sais bien. Donc, moi je trouve ça très bien. J'ai même marché à la chouette qui parle. Je trouvais ça une idée qui pourrait être ridicule. Et puis quand elle vient, elle s'envole pour prévenir la petite à l'école. Et j'ai marché. Je trouve ça extrêmement lyrique. Et l'incendie, qu'est-ce qu'il y a de long dans l'incendie?
Elle est incroyable, de l'appartement.
Je sais pas, tu chronométrais les scènes du clair de nuit. Donc on a le droit de chronométrer la scène d'incendie quand même.
Ah mais moi je chronomètre pas le film de Claire Denis, je le trouve mauvais de la première à la dernière minute, je chronomètre rien. Et là je trouve ça vraiment très 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 touchant et très très bien. Voilà.
Ce que j'aime chez toi c'est cette sensibilité que tu as.
Et puis voilà,
et pour une fois,
pour une fois dans un film français on prononce le mot âme, tu te rends compte, oui. Dans un film russe tout le temps, mais dans un film français.
Mais il y a un côté un peu russe dans ce film.
Dans la folie.
Non, mais Lansky.
Oui, mais absolument.
Il y a un côté faute d'amour.
Nicolas.
Je veux pas casser l'enthousiasme parce que c'est un joli film. Après, moi, je
trouve un joli film.
Non, mais c'est... non, mais oui, parce que je trouve assez inégal.
Il y a pas le rythme du sens de la fête, c'est sûr.
Non, mais j'ai l'impression qu'il y a parfois Noémie Lansky va un peu loin dans le. J'ai l'impression de voir un peu ma voisine de palais qui me raconte des ses névroses et ses turpitudes familiales et tout n'est pas forcément toujours.
Je me fous de ta voisine de palais.
C'est vraiment ça. C'est à côté. Mais c'est moi, elle me fait penser à ma voisine de palais, Noémie Lansky. Et sans vraiment, parfois on a l'impression qu'elle va un peu trop loin dans. Il y a une pudeur, mais en même temps elle déballe des choses et on n'est pas forcément voilà. Toujours.
C'est très slave. Tu as parfaitement raison, Jérôme. Jérôme, cette espèce de
Jérôme,
pudeur.
C'est pas Gérald, hein, Jérôme. C'est Jérôme.
Jérôme, c'est une pudeur slave, c'est-à-dire l'exhibition.
Bon, enfin, si vous avez une âme, allez voir demain et tous les autres jours de Noémie Lansky. Allez, un conseil pour finir cette émission. On va commencer avec Sophie.
Téhéran Tabou, qui est un film d'animation d'Ali Zozandeh, qui est un film vraiment très dur et très âpre et très, mais où l'animation fait passer beaucoup de choses. Ça se passe à Téhéran et on montre à travers trois femmes les rapports entre la prostitution, la corruption, la religion, enfin comment tout ça se met en place. Et c'est, je dois dire, assez fort.
Le conseil de Xavier.
Va Toto, le film de Pierre Creton, qui est un cinéaste totalement atypique. Il a fait la Fémis, puis il est redevenu ouvrier paysan et il fait des films tout en travaillant la terre. Et c'est à la fois un documentaire puisqu'il filme sa voisine de palier, entre guillemets, en tout cas de campagne, qui a adopté un marcassin sauvage. Il filme en forme de journal intime le retour d'un de ses amants. Et puis ensuite, il y a de la fiction, c'est-à-dire qu'il demande à des comédiens, Grégory Gadebois par exemple, ou Françoise Lebrun, d'interpréter les monologues intérieurs des personnages. Il y a des comédiennes qui arrivent, Catherine Moucher, qui joue des personnages comme ça. Ça a l'air complètement bigarré et ça fait une espèce de film absolument inclassable, magnifique, poétique, mélopée. Moi, j'ai adoré ça. C'est vraiment du cinéma entre Vincent Dieutre, j'allais dire, cette veine-là. Et c'est bouleversant.
Mon conseil, c'est un documentaire Latifa, Le cœur au combat, un documentaire d'Olivier Payon. Et Cyril Brody, ils ont suivi pendant un an Latifa Ibdiaten, qu'on connaît, dont le fils Imad, sous-officier de l'armée française, a été assassiné à Toulouse en 2012 par le terroriste Mohamed Merah. Et depuis cette date, elle a créé une association, cette femme est absolument incroyable, pour promouvoir la laïcité, établir un dialogue interreligieux et puis surtout accompagner les jeunes des quartiers en difficulté. Et le film l'accompagne vraiment partout. On la voit en prison, on la voit en France, on la voit au Maroc, on la voit même en Chine. Elle porte la bonne parole jusqu'en Chine. Et cette femme, moi, je la trouve admirable. Et Latifa, le cœur au combat, c'est l'histoire, donc, de son combat, mais pour la paix. Le conseil de Nicolas.
Alors moi, ce sera un one-woman show, qui est un one-woman show très cinématographique, parce que c'est une jeune actrice qui a écrit et mis en scène son spectacle. C'est dans une petite scène qui s'appelle La Nouvelle Scène. C'est la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe. Le spectacle s'appelle Judith Monrovitz. Et c'est très, très drôle. C'est à la fois le parcours d'une actrice réinventée à travers tout son passé familial et ses origines donc ashkénazes, et c'est vraiment plein d'idées. C'est très artisanal, c'est plein d'idées formidables, et j'espère qu'on retrouve cette actrice. C'est La Nouvelle Scène, c'est les mardis. Attention, c'est que les mardis soirs.
Le conseil de Pierre.
Alors il y a un jeune comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Rautier, et il se trouve qu'il a sorti deux films la même semaine, sont sortis deux films où il joue. Alors un s'appelle Monet de Gayla Babloueni, qui est un thriller superbement agencé, et l'autre c'est Espèce menacée de Gilles Bourdos, où il joue un mari violent avec un naturel et une frénésie incomparable. Donc pour l'acteur et pour les deux films.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat, Nicolas Chaler pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selam, ce soir au Charles Trenet à la technique, il y avait, je les remercie, Fabien Capel, Philippe Thibault, Éric Boisset. La réalisation était signée David Jakubowiez. Notez bien que le prochain enregistrement Du Masque et la Plume, c'est le jeudi 19 octobre. Je vous attends nombreux à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une qui sera consacrée au livre et l'autre au film. Dans une semaine, on parle de théâtre. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.